Donc je vais parler des sociétés savantes d'histoire naturelle des arbres et de la ville. Alors plutôt entre 1780 et 1940 en fait. Voilà. Donc l'arbre au 19e siècle contribue à façonner les villes nouvelles et acquiert un rôle majeur dans les programmes de restructuration des villes européennes. À Paris, la création du service des promenades et plantations en 1853, puis la création d'une école théorique et pratique d'arboriculture en 1867, marque une volonté de gestion, de normalisation et de production des arbres à Paris. Mais ces créations découlent surtout d'un fort engouement pour l'horticulture et l'arboriculture, qui donne de nombreuses fondations de sociétés savantes spécialisées dans les années 1830. Ces sociétés souhaitent introduire de nouvelles espèces, rendre l'arbre plus productif, tout en étant maîtrisé, mais aussi que l'arbre serve une certaine esthétique. Au début du XIXe siècle, les sociétés savantes qui traitent de questions d'histoire naturelle sont essentiellement les sociétés d'agriculture et d'horticulture. La plupart des sociétés spécialisées uniquement en histoire naturelle naissent autour de 1860. Pour comprendre l'importance de ces sociétés, notamment le rôle de leur publication dans l'essor de l'arboriculture en France, il faut s'intéresser aux publications françaises et belges, parce que les publications belges sont aussi diffusées de façon importante sur le territoire français. Je vais donc chercher à travers cette communication à déterminer en quoi les sociétés savantes ont eu un rôle majeur dans l'essor d'une normalisation des techniques de l'arbre, tout en paradoxalement valorisant le remarquable, l'exceptionnel. Je vais tout d'abord m'intéresser au phénomène de la naturalisation d'arbres par les sociétés savantes ou leurs membres, avant d'observer le rôle de ces sociétés dans l'essor des techniques arboricoles. Enfin, pour comprendre le processus de la mise en place des premières protections des arbres, il me faudra m'intéresser à l'arbre comme objet territorial et pittoresque. Dans les années 1780, les sociétés d'agriculture françaises encouragent les travaux sur la culture des arbres. La Société royale d'agriculture de Paris publie notamment le mémoire sur les arbres résineux d'Étienne François Turgot, 1786. Dans cet opuscule, il souhaite encourager la culture d'espèces comme le pin maritime, le mélèze, le cèdre de Virginie et du Liban ou encore le cyprès pour servir pour la charpenterie, la menuiserie et comme bois de chauffage. Certaines villes, comme le Mans, sont entièrement chauffées au bois, au pin maritime. Turgot contribue activement à diffuser des spécimens considérés comme exotiques sur le territoire métropolitain français. Le Jardin des plantes de Paris lui doit un pin corse, encore visible, et qui a été planté par Antoine Laurent de Jussieu en 1774, grâce à une graine rapportée par Turgot de Corse. C'est à cette même époque que plusieurs membres de cette société s'intéressent à l'acclimatation d'espèces étrangères, mais il s'agit surtout de lutter contre la déforestation à l'origine d'une stérilisation des terres en dehors des villes et non d'introduire des arbres en ville. Les membres des sociétés d'agriculture, souvent propriétaires urbains, sont souvent les premiers à introduire des espèces rares en ville ou en périphérie. Tout d'abord, les initiatives sont personnelles et réalisées soit sur des parcelles privées ou au cœur des jardins botaniques. Parmi les jardiniers les plus actifs dans l'introduction de nouveaux arbres en France, André Thouin, jardinier en chef du Jardin des plantes de Paris avant la Révolution française, réussit l'acclimatation en France de plusieurs arbres, comme le mûrier à papier, qu'il essaye d'introduire à Paris comme arbre d'alignement le long du boulevard Bourdon, accompagné de robiniers et d'élantes. Mais l'expérience reste confidentielle car au siècle suivant, les platanes, les marronniers, les ormes et les élantes dominent le plus les bordures des promenades et des avenues. André Thouin réussit de même à introduire en France l'arbre à pin, qui est originaire d'Océanie, qui a été un objet de bien des convoitises européennes. Le fruit de cet arbre, très nutritif, avait la réputation de pouvoir mettre fin aux famines dans les îles. L'arbre à pin est demeuré célèbre, entre autres pour avoir déclenché la mutinerie du Bounty en 1789. Donc c'est l'illustration que vous avez. Vous voyez que les membres du navire vont jeter toutes les plantations parce que en fait l'eau courante était réservée aux plantes et non pas non pas aux membres de l'équipage. En 1791, le voyage de recherche de La Pérouse, ordonné par la France, se charge d'une portée scientifique. L'Assemblée nationale, sur une demande de la Société d'histoire naturelle de Paris, charge d'Entrecasteaux de se lancer sur les traces de La Pérouse, mais aussi de conduire une équipe de scientifiques, comprenant un botaniste, Félix Lahaye, officiellement chargé de ramener en France des arbres à pin et de les confier à André Toin à Paris. Après avoir conservé l'arbre dans les serres du Jardin des Plantes de Paris pendant 3-4 ans, les plants vont être envoyés en Guyane pour être reproduits et exploités. Ces personnalités, membres de la Société d'agriculture de Paris, cherchent par la suite à encourager l'introduction d'espèces par le don de graines au sein de cette société. À Paris, plusieurs jardiniers de renom, André Toin, Villemorin ou encore Jacques-Louis Dessemé, proposent à partir de 1794 de distribuer gracieusement des graines au sein de la société. Et c'est une initiative qui va compléter en fait une initiative qui a une dizaine d'années, qui date de 1794, qui permettait en fait, qui était un système de correspondants et qui permettait d'obtenir des graines exotiques. Ces introductions de plantes étrangères ne suivent cependant pas encore un programme d'introduction plus vaste d'arbres. C'est quelque chose qui reste confidentiel au sein de la société. En 1785, le gouvernement français charge un botaniste, André Michaud, de déterminer les espèces américaines intéressantes à acclimater en Europe. Ses travaux suscitent un intérêt tel qu'il obtient l'autorisation de mener une expérience d'introduction du chêne quercitron au bois de Boulogne en 1818. Cette expérience trouve un écho au sein des sociétés savantes et va être copiée en province. Donc dans l'Aube, un poète qui s'appelle Eusèbe Salvert et qui est membre de la Société d'agriculture locale demande en 1826 un demi-kilogramme de glands de ce chêne à André Michaud et il va annoncer les premiers résultats de son expérience dans les mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de l'Aube. En fait, il va planter tout un espace de ces chênes, mais le résultat ne va pas être concluant, les chênes ne vont pas bien pousser. En scène inférieure, l'introduction du chêne quercitron est une expérimentation collective. L'écorce du chêne quercitron, fournissant une teinture couleur citrine, l'arbre ne peut qu'intéresser fortement les industriels du département, notamment les fabriques rouennaises de textiles. Sur le modèle de l'expérience menée au bois de Boulogne, la Société centrale d'agriculture de la Seine inférieure fait venir de New York, en 1820, un baril de glands de chêne quercitron qui va être entièrement. Les glands vont être distribués à tous ses membres. Les glands sont tous plantés en mars 1821 au sein des propriétés personnelles des sociétaires, donc beaucoup se situent en milieu urbain, notamment à Rouen. Mais les premiers résultats du point de vue de l'industrie textile obtenus en 1839 ne sont pas satisfaisants, ce qui explique que l'expérience n'a pas été prolongée par la suite. Les introductions d'arbres sur le territoire européen n'intéressent pas que les sociétés d'horticulture. La Société impériale zoologique d'acclimatation de Paris, dont le but est d'introduire des espèces utiles au pays, s'intéresse à la naturalisation des séquoias. Introduit en Europe dans les années 1840, le séquoia sempervirens est visible notamment au Jardin des Plantes de Paris, d'Angers, de Blois et de Nantes en 1859. Quant au séquoia gigantea, c'est celui de droite, il n'est présent à Paris que depuis 1854. Alors, si la société d'acclimatation cherche des qualités au bois des séquoias, c'est surtout pour leur aspect esthétique qu'ils sont à la fin du 19e siècle recherchés, particulièrement pour orner les parcs des grandes propriétés. Donc, on ne va jamais vraiment trouver un intérêt économique ou industriel au séquoia. Les sociétés d'horticulture francophone, créées bien souvent aux alentours de 1830, contribuent fortement à l'essor de l'arboriculture. Par le biais de leurs bulletins, ils diffusent information et innovation dans ce domaine et aussi proposent parfois un enseignement spécialisé. La Société d'horticulture de Paris, créée en 1827, commence très tôt à relayer des comptes rendus sur les cours de taille des arbres fruitiers donnés à Paris, comme le cours de Dalbret, dispensé en 1828 à l'École de culture pratique du Jardin des Plantes de Paris. Comme le précise le rédacteur du compte rendu, ces opérations, loin de la capitale, sont bien rarement pratiquées et même presque inconnues. La taille des arbres est donc une pratique urbaine, liée à de grands centres urbains, spécifiquement à des jardins botaniques. Mais il faut attendre une initiative privée au sein de la société pour que des cours soient publics et gratuits de taille et de conduite pratique des arbres fruitiers à son domicile au 163 rue de Grenelle. À l'époque, c'était rue de Grenelle Saint-Germain. Pour accompagner l'ouverture de son cours, il fait publier un ouvrage récapitulant les différentes notions abordées durant son cours. Avec ce nouveau type d'enseignement, on bascule d'un cours qui est réservé aux élites à un cours ouvert à tous. Dans son ouvrage, Louis Gaudry néglige d'évoquer des cours qui existent déjà en province, notamment celui dispensé par Alphonse Dubreuil à l'école d'arboriculture de Rouen, qui va être fondée en 1839 au Jardin des plantes de la ville. Cet enseignement, Alphonse Dubreuil le réclame en 1836 par l'intermédiaire de la Société centrale d'agriculture de la Seine inférieure. Le contenu de cet enseignement original est retranscrit dans son cours élémentaire théorique et pratique d'arboriculture que vous voyez s'afficher, qui est paru en 1846. Ce manuel compile autant des savoirs encyclopédiques que des données pratiques. Il est un témoignage de la place assignée aux arbres sur le territoire français. Les arbres et leur disposition ont une utilité précise qui contribue à forger le paysage urbain et rural. Les plantations en bordure abritent ainsi les localités exposées au vent. Quant aux avenues, alors je cite, elles servent à former de magnifiques promenades publiques et surtout à purifier l'air vicié par ces grands centres de population. Les publications de Dubreuil remportent un franc succès en France, ce qui peut expliquer sa nomination comme co-directeur de l'école théorique et pratique d'arboriculture de Paris, qui va être fondée en mars 1867 par le préfet Haussmann. Ce nouvel établissement a pour mission de former des jardiniers pour entretenir les promenades publiques façonnées par Alphand. Les arboriculteurs des années 1840, par l'étude des arbres, sont en quelque sorte les premiers observateurs des effets de la pollution urbaine sur la nature en ville. En 1842, le jardinier en chef du Muséum national, Louis Neumann, présente à la Société d'horticulture de Paris les racines d'ormes morts arrachées sur le boulevard de l'Hôpital. Il incrimine le gaz des éclairages publics qui, en s'infiltrant dans la terre, provoque la mort des plantations. Rapidement, d'autres villes en France sont touchées par ce phénomène, comme Brest, Rouen. Vous allez aussi avoir ce même problème place Blécourt à Lyon. Et on va avoir des horticulteurs qui vont proposer des aménagements spéciaux pour drainer correctement les sols et éviter les infiltrations de gaz dans la terre. Les dangers de la pollution urbaine sur les cultures sont bien connus dans les années 1880 et transparaissent dans les écrits des arboriculteurs. Certains professeurs d'arboriculture déconseillent même la plantation des vergers en ville, comme Picoret, qui est lui professeur d'arboriculture à Nancy, et qui va en 1893 déclarer « Les poiriers-tiges plantés en verger ou ailleurs seront d'autant plus beaux et plus fertiles qu'ils seront situés dans un milieu exempt de toute influence fâcheuse, le voisinage des usines, l'intérieur des villes, les jardins trop petits englobés dans des bâtiments. » À cette même période, apparaissent des discussions au sein des sociétés savantes d'horticulture sur les âges très diffusés dans les années 1840 des boues des villes, donc la gadoue en fait des villes. En effet, ces boues ou gadoues trouvent une place de choix dans les traités d'horticulture. Elle est décrite par l'arboriculteur Gressan comme, je cite, un engrais excellent, d'autant meilleur qu'il renferme des matières animales et végétales, des détritus de poissons, de cendres, de suie, etc. Mais des critiques sur l'usage de ces détritus émergent au sein des sociétés horticoles à partir des années 1890, avec la prise de conscience de la dynamique des sols, comme au sein du Cercle d'arboriculture de Belgique. Alors je cite, « On nous demande si l'emploi de ces balayures dans les jardins présente quelques dangers pour la salubrité. Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement à la question si le jardin est situé à proximité d'habitation. » L'arboriculture au milieu du XIXe siècle a suscité l'intérêt des jardiniers professionnels, amateurs, mais aussi de ceux parfois qualifiés de jardiniers bourgeois. Cet engouement a provoqué des réactions et des critiques. Flaubert, qui associe la taille de l'arbre et de ses rameaux sauvages à une unification monotone, met en scène dans plusieurs de ses romans des bourgeois arboriculteurs amateurs. Homais de Madame Bovary se vante de son traité de pomologie, ce qui lui vaut d'être reçu à la Société agronomique de Rouen. Le marquis Gilbert Désonné, dans l'éducation sentimentale, la version de 1869, prend des cours d'arboriculture tous les matins et consacre ses soirées au cercle agricole. Enfin, les deux comparses de Bouvard et Pécuchet concluent, après leur échec au verger, que l'arboriculture pourrait bien être une blague. Au milieu du XIXe siècle, Les sociétés spécialisées en études de l'histoire naturelle s'établissent dans de nombreuses villes françaises et constituent des collections, souvent ouvertes au public. Les collections d'histoire naturelle, autrefois dédiées à la curiosité, aux objets rares, souvent exotiques, se territorialisent. La volonté des sociétés savantes, à l'origine de plusieurs muséums, alors comme à Colmar, à Lyon ou à Toulouse, est bien généralement de fournir un inventaire local et exhaustif de la faune et de la flore d'un département, voire d'une région. Conservées en milieu urbain, ces collections servent aussi les intérêts économiques de la ville et de façon générale de son territoire d'influence. Les collections d'essence de bois trouvent ainsi une place privilégiée au sein des premières collections de muséums comme à Colmar ou encore à Metz. La pratique naturaliste, notamment au sein des sociétés savantes, est avant tout une invitation à la découverte de proximité. Si le naturaliste du début du XIXe siècle collecte souvent seul, avec les nouvelles sociétés d'horticulture et d'histoire naturelle, les herborisations collectives sont prétexte à la promenade et à des sorties touristiques où les observations naturalistes se mêlent au patrimoine, au pittoresque et à la gastronomie. Le journal de la Société nationale d'horticulture de France témoigne dès 1827 de ce type d'usage. Les membres de la société s'invitent à visiter leurs propriétés ou bien des propriétaires convient la société à venir visiter leur jardin. Alors souvent, ce sont des pépiniéristes. Et s'attardent devant les arbres remarquables et pittoresques des jardins. Les sociétés d'histoire naturelle françaises s'intéressent de même à la fin du XIXe siècle aux arbres comme objets pittoresques, dotés d'une histoire et porteurs de traditions. Au même titre qu'un édifice patrimonial, ils sont des points d'intérêt majeurs des excursions organisées par les sociétés d'histoire naturelle. Les excursions passent nécessairement par la ville, car à partir de la deuxième partie du XIXe siècle, les sociétés se déplacent par le chemin de fer. Alors, ça dépend des régions. En Normandie, c'est tout à fait le cas. Par contre, dans la région toulousaine, ils font des excursions essentiellement dans la montagne parce qu'ils s'intéressent surtout à la géologie. En Seine inférieure, la société se déplace pour visiter le patrimoine urbain, prendre un repas en commun, bien sûr, et herboriser aux alentours de la ville. La société s'attarde de même souvent au pied des vieux arbres de Normandie, particulièrement étudiés par un de ses membres, Henri Gadeau de Kerville. Ce naturaliste passionné de photographie se préoccupe beaucoup de la disparition des vieux arbres de la région. Il lance alors un projet permettant de conserver le souvenir de ces arbres. Durant plusieurs années, il s'emploie à photographier ces arbres et fait éditer de 1890 à 1937 les fascicules de son étude consacrée aux vieux arbres de Normandie dans les bulletins de la Société des Amis des Sciences Naturelles de Rouen. Le projet, qu'il qualifie de botanico-historique, repose plus sur une histoire culturelle de l'arbre que sur ses qualités botaniques. Ce projet précurseur est suivi quelques années plus tard, en 1899, par une circulaire du directeur général des eaux et forêts demandant une protection pour, alors je cite, « les arbres renommés dans la contrée, soit par les souvenirs historiques ou légendaires qui s'y rattachent, soit par l'admiration qu'inspire la majesté de leur port, leur dimension exceptionnelle ou leur âge vénérable. » Donc pour conclure, au début du XIXe siècle, l'arbre n'échappe pas au productivisme et au processus d'industrialisation. Il est étudié, cultivé, voire acclimaté pour servir une industrie française en quête d'augmentation de rendement pour améliorer les rendements économiques. Les sociétés d'agriculture du début du siècle œuvrent activement pour améliorer les rendements et surtout combler les premiers effets négatifs de la déforestation. Avant même l'émergence de la notion d'écologie, il est compris dans une dynamique essentielle pour la fertilisation des terres, la gestion des eaux et même la régulation des climats. Les sociétés savantes françaises spécialisées en histoire naturelle relaient des recherches et débats autour de ces questions en se préoccupant notamment de l'impact du déboisement sur les villes. L'introduction d'espèces exotiques cherche à combler ce début de déforestation tout en cherchant à améliorer les rendements. Le XIXe siècle voit aussi l'essor et l'uniformisation d'une technique autour de l'arbre avec un constat principal. La diffusion de l'enseignement de l'arboriculture paraît engendrer une uniformisation des pratiques horticoles mais aussi des paysages urbains ou ruraux. En raison de leur taille, les arbres deviennent dès le milieu du siècle des indicateurs de la pollution urbaine. Et pour cette raison, ils attirent l'attention des premiers défenseurs de l'environnement et obtiennent une protection juridique relativement précocement. Et les sociétés savantes ont bien souvent eu par ailleurs un rôle déterminant dans la protection d'arbres. En 1891, une société spécialisée dans sa défense voit par ailleurs le jour, la Société française des Amis des Arbres, qui va être créée initialement à Nice. Et cette société a pour objet de lutter contre le déboisement et d'inciter l'initiative individuelle en vue de plantation et de la propagation des arbres isolés ou en massif. Donc, suivant le modèle du classement des monuments historiques, la société fait classer les spécimens qu'elle juge remarquables. Je vous remercie.
Donc, merci pour cette présentation qui met notamment en avant le rôle des sociétés savantes, en particulier donc des sociétés d'agriculture ou d'arboriculture. Alors, c'est intéressant de montrer comment elles peuvent avoir un rôle, effectivement, à la fois dans la diffusion des connaissances, j'allais presque dire la circulation des connaissances et des graines, et puis une fonction professionnalisante de formation avec, par le biais de cours, etc. Donc, évidemment, des intérêts économiques. Donc là, on est plus, effectivement, sur des sociétés qui ont des visées techniques, économiques et de professionnalisation, une fois encore. C'est vrai que c'est intéressant de noter, de rappeler que les sociétés naturalistes, qui ont peut-être un champ moins professionnel, apparaissent dans la deuxième partie du 19e siècle. Mais je trouve effectivement intéressant d'aborder cette question par le biais effectivement du réseau savant, en particulier du réseau savant que vous connaissez bien sur Rouen. Donc peut-être y a-t-il des questions dans la salle.
Merci. Merci beaucoup pour votre exposé extrêmement riche et vraiment très, très intéressant. Je me demandais justement sur la dernière partie que vous évoquiez sur ces arbres, objets pittoresques que je trouve évidemment, enfin, vu mes recherches, très, très intéressants. Ces arbres singuliers qu'on recherchait et qu'on voulait classer, ils étaient urbains? Enfin, il y en avait un certain nombre qui devaient être évidemment hors de la ville, mais on en a aussi qui sont dans les villes.
Alors, pour le cas de la Normandie, ils sont souvent encore à la campagne parce qu'ils sont attachés à des croyances. Et c'est ce que raconte Gadot de Kerville. Parce que, en fait, ces arbres ont persisté parce qu'ils sont liés à la religion, ils sont à proximité des églises et des cimetières. Et ils contiennent des chapelles, souvent. Et ils n'ont pas été détruits pour cette raison-là. C'est le cas du chêne d'Allouville-Bellefosse à la fin du XVIIIe siècle. Il a failli être détruit à la Révolution française. Alors là, ça a été compliqué, puisque... Merci. Pardon. Oui, donc le chêne d'Allouville-Bellefosse, qui a failli être détruit à la Révolution française, a été sauvé. Alors, cette fois-ci, plus parce qu'il était considéré comme un arbre remarquable. Mais ce que voudrait faire Gadot de Kerville à la fin du XIXe siècle, c'est qu'il voudrait les faire classer, mais qu'on arrête les croyances qui sont autour de ces arbres. Donc, c'est un peu l'inverse. Et je crois que c'est vraiment la croyance qui a sauvé ces arbres au XIXe siècle. Et après, ça a été un véritable intérêt dans les années 1920-1930, totalement détaché de la religion, pour ces arbres-là. Mais c'est vrai qu'ils sont essentiellement ruraux en Normandie, parce que je me pose la question, est-ce qu'il y avait aussi des arbres chapelles ou des arbres églises dans les grands centres urbains en Normandie? Je suis pas sûre, en fait. On n'a pas beaucoup de traces avant le XVIIIe siècle.
Et on n'a pas beaucoup de travaux sur la Société des Amis des Arbres. Enfin, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont été faites, même pour la connaître un peu mieux. Oui. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse. Merci beaucoup. Non.
Si je peux rebondir, ouais. Merci pour ton exposé. J'ai vraiment trouvé ça super. Super intéressant. Je voulais discuter avec toi là sur ta conclusion sur la dimension économique. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une sorte de schizophrénie, quoi, ou peut-être un fétichisme de l'arbre. Avec d'un côté ce que tu as décrit pendant la plus longue partie de ton exposé, c'est-à-dire un intérêt, une fascination très forte pour les arbres exceptionnels qui ont une histoire, qui vont devenir des individus, et puis aussi qui renvoient peut-être avec des émotions très fortes de nostalgie d'un monde perdu, cet arbre, il a connu ceci, cela, etc. Schizophrénique et fétichiste aussi, parce que ça cache quelque chose d'autre. C'est-à-dire que le 19e siècle, c'est aussi le moment où sur les arbres se développe une rationalité mathématique qui vient de Buffon, et ses forges, etc., mais avec très élaborée pour essayer de y a les travaux de François Vatin hein, là-dessus, pour essayer de calculer comment exploiter le plus possible le maximum d'arbres avec le taux de reproduction, tout en pouvant reproduire la ressource. C'est-à-dire une approche complètement dépersonnalisée. L'arbre est désindividualisé, il est standardisé, mis en série, c'est simplement une quantité de bois. Et donc là, il y a quelque chose comme une sorte de schizophrénie bourgeoise qu'on retrouve aussi, enfin, je veux dire, qui est typique de ces alpinistes aussi, enfin, de cette à la fois un rapport très sensible à la nature, puis en même temps une rationalité économique très impersonnelle. Et alors, du coup, est-ce que cette schizophrénie, toi, tu, dans les sociétés que tu as regardées, tu peux la retrouver, tu peux retrouver des gens qui sont au cœur de cette contradiction ? Est-ce que c'est des milieux séparés ?
Non, justement, ils sont ambigus. Je crois qu'il y a un des textes que j'ai montré. Ils visitent une pépinière. Ils regardent les arbres qui sont exploités de façon massive et de façon très rationnelle. Et puis, ils s'intéressent quand même aux arbres singuliers, ceux qui sont beaux esthétiquement. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est qu'à partir des années 1850, on voit en fait que c'est pour l'esthétique de l'arbre que certains arbres retiennent l'attention. Et c'est vrai que le séquoia, je pense que ça fait partie de ces arbres qui vont être uniquement cultivés pour leur aspect esthétique. Et c'est peut-être une nouvelle esthétique bourgeoise, finalement, des propriétés fin 19e siècle. On va avoir des grands arbres dans les grandes propriétés, avec des séquoias et peut-être des chênes cette fois-ci. Alors les chênes scarcitrons qui ont été plantés dans les années 1820, je crois que très rapidement, ils ont basculé dans l'esthétique et pas la rentabilité finalement, parce qu'ils ont pas eu tant d'intérêt que ça pour l'industrie textile.
Ouais, et puis, du coup, juste des derniers petits trucs, c'est-à-dire, si on oppose comme ça une sorte de fétichisation bourgeoise d'un arbre privé, villageois ou dans un domaine privé, puis de l'autre côté, une approche capitaliste, rationnelle, etc., il y a peut-être un truc entre les deux qui est celui d'un arbre civique. Je pense, par exemple, tu sais, l'harmonie végétale de Roche sous la Restauration, imagine de planter, puis déjà sous l'Empire... Il y a un article de Laurent Brassard là-dessus, planter le long des rues et le long des rivières des grandes rangées de platanes. Oui. Donc c'est ni un arbre privé, ni un arbre marchandise. C'est un arbre qui, un arbre civique un petit peu, donc ça serait une sorte d'utopie végétale un peu entre les deux.
Oui, c'est ça. Fin 18e aussi, parce que dans les traités de 19e, ils ont une utilité quand ils sont plantés près de la côte, c'est pour protéger du vent, enfin ils ont une utilité pratique.
C'est ça. Et donc ça, c'est très fort, fin 18e, début 19e. Est-ce que cet arbre civique qui serait entre les deux, tu le retrouves aussi dans ces milieux, dans ton milieu d'arboriculteurs, surtout normands ?
En fait, on le retrouve essentiellement dans les traités de plantation, comment aligner des arbres. Mais on va pas les trouver, peut-être chez les pépiniéristes, peut-être, mais ils apparaissent pas tant que ça, en fait, dans les sociétés savantes. Alors oui, il y a des articles à Toulouse. J'ai vu qu'il y a des gens qui s'intéressaient aux marronniers d'alignement, je crois. Donc on a quand même quelques articles au sein des sociétés savantes.
Merci.